Radio Prague, les informations.
Bienvenue à l'écoute, Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin d'information dont voici tout de suite les titres. Le ministère de l'Intérieur veut réduire le nombre de policiers. La ville de Prague fait appel contre la commune de Moravský Krumlov dans l'affaire de l'épopée slave. Et puis du sport avec du football et la qualification du Sparta Prague pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Radek John, chef du parti Affaires publiques, a annoncé dans l'édition de jeudi du quotidien Pravo qu'un certain nombre de policiers seraient licenciés. « Nous voulons nous séparer de ceux qui sont le moins utiles pour la République tchèque pour que cela affecte le moins possible les salaires de ceux qui sont vraiment utiles », a-t-il déclaré. Comme les autres ministères, le ministère de l'Intérieur est poussé à l'austérité. Sur un budget de 59 milliards de couronnes, il devra en économiser 14% et réduire les coûts salariaux de 10%, écrit le quotidien. La bataille juridique autour de l'épopée slave d'Alphonse Mucha continue. Lundi, la ville de Moravský Krumlov, actuellement hôte de la série de tableaux monumentaux, l'épopée slave, avait interdit le déménagement des toiles vers la capitale. Mercredi, le conseiller municipal de la ville de Prague, chargé de la culture Ondřej Pecha, a annoncé que la capitale tchèque allait faire appel de cette décision. Le conflit oppose depuis quelque temps la municipalité de Prague, la ville de Moravský Krumlov et les héritiers du célèbre peintre Art Nouveau. La procédure d'appel sera examinée par les autorités de Moravie du Sud. Toujours en Moravie, des archéologues ont trouvé à côté de la ville de Břeclav à la frontière slovaque les vestiges d'une rotonde de l'époque de la Grande Moravie, c'est-à-dire du 9e siècle. Ces vestiges ont été mis à jour alors que personne ne s'y attendait. L'église en pierre en plan circulaire avait un diamètre d'environ 6 mètres, a indiqué l'archéologue Jiří Marchaček, ajoutant que la découverte est d'un point de vue historique tout à fait exceptionnel. On passe au sport avec d'abord du football. Je vous le disais en titre, le Sparta Prague affrontait mercredi soir le Lech Poznan en Pologne pour le match retour du troisième tour préliminaire de la prestigieuse Ligue des Champions. Le club de la capitale tchèque l'a emporté 1-0. Il l'avait emporté sur le même score au match aller à Prague. Et le Sparta est donc qualifié pour la phase finale de poule de la plus prestigieuse et plus lucrative compétition européenne de clubs, la Ligue des Champions, ou en anglais Champions League. Et puis du tennis, avec un mois après sa première finale de Grand Chelem à Wimbledon, perdu contre le numéro 1 mondial Rafael Nadal, le Tchèque Tomáš Berdych qui a repris le chemin des cours à Washington pour son premier match de la saison sur terrain dur. Berdych, qui était la tête de série numéro 1 du tournoi, a battu le Russe Dmitry Tursunov en 3-7. Au prochain tour, le 8e joueur mondial, c'est son nouveau rang après ses belles prestations, le 8e joueur mondial Tomáš Berdych retrouvera un autre Russe, Andrei Golubev. Quant à Radek Štěpánek, l'autre Tchèque, en lice, après une pause de 5 mois pour des raisons de santé, il s'est lui incliné dans le même tournoi contre le Suisse Marco Ciudinelli. C'était les informations qu'on termine avec la météo, avec ce jeudi, jour de fête des Christianes en République tchèque, un ciel clair, mais qui devrait se couvrir, notamment sur la partie occidentale du pays. Les températures maximales se situent entre 22 et 26 degrés, et dans un instant, c'est la suite du programme en français de Radio Prague.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque de ce jeudi 5 août. Le nouveau gouvernement a présenté mercredi sa déclaration de politique générale dans laquelle il prévoit de nombreuses réductions budgétaires. Nous verrons comment le monde du sport pense à pallier ce manque de ressources. Au programme, nous aurons ensuite deux sujets culturels avec les célébrations estivales de Shakespeare et le Festival international d'orgue qui se tiennent tous deux dans la capitale tchèque. Merci d'être à l'écoute de ces faits et événements. Quel le plaisir de vous présenter Anne-Claire Veluire. Très bonne écoute à tous. Toutes et à tous. Le gigantesque stade de Strahov, qui domine la capitale tchèque depuis la colline de Petřín et qui constitue le second plus grand complexe sportif au monde en termes de capacité d'accueil, pourrait être détruit et ses terrains revendus. C'est une piste envisagée par l'Union tchèque d'éducation physique qui cherche à pallier les réductions budgétaires annoncées par le gouvernement. Le gouvernement l'avait annoncé et l'a confirmé ce mercredi dans sa déclaration de politique générale. Son objectif est de réduire les déficits publics en engageant une série de mesures qui s'appliqueront à presque tous les secteurs de l'économie, ministère de l'Intérieur, de la Culture, de l'Éducation nationale. Tous les budgets sont donc revus à la baisse et dans celui de ce dernier ministère, celui de l'Éducation nationale, la part allouée au sport sera également réduite. C'est la raison pour laquelle le monde du sport réfléchit à d'autres sources de financement, comme l'explique Thomas Kral, président de l'Union de hockey sur glace.
Les nouveaux instruments sont à chercher dans le budget. Il y a des instruments pour réduire les frais et les charges. Il y a aussi la question des paris dont on parle souvent. La réforme des paris doit avoir un sens, être effective et logique. Évidemment, avec l'Union tchèque d'éducation physique, nous essayons de trouver des solutions. Actuellement, ils évaluent de façon très détaillée la valeur de leur patrimoine. La décision sur la vente du stade de Strauf n'est pas encore tombée, mais évidemment, c'est un sujet dont on parle et nous cherchons dans toutes les directions. La situation économique est difficile, il faut en tenir compte.
Ce n'est pas la première fois qu'il est question de la vente de cet espace autour du stade de Strahov. Le projet prévoirait de libérer 35 hectares de terrain dans une des meilleures localités de la capitale, ce qui pourrait représenter environ 7 milliards de couronnes. Une ressource qui serait plus que bienvenue après une coupe de plus de 50 millions de couronnes déjà cette année dans le budget du sport. Le complexe sportif de Strahov et son immense stade, dont la surface peut contenir lui-même plus de 9 stades de football, est cependant protégé. Construit au début des années 30, il est toujours associé aux fameuses Spartakiades, ces rassemblements sportifs de masse pratiqués sous le régime communiste. Lors de ces manifestations, les gradins du stade pouvaient se remplir jusqu'à 56 000 personnes. En 1960, 750 000 sportifs, un record, se sont relayés dans l'enceinte du gigantesque stade. Mais même s'il est sur la liste des monuments protégés du ministère de la Culture, l'Union tchèque d'éducation physique espère bien que cet espace sera suffisamment attractif pour que l'État et la ville accueille avec satisfaction la libération de ces terrains. Quant à l'Union tchèque d'éducation physique, elle aimerait construire pour 2,5 milliards de couronnes un nouveau complexe sportif plus moderne qu'elle implanterait à Letňany, au nord de la capitale tchèque. C'est déjà une tradition. En été, la cour du palais du Burgrave au château de Prague se transforme en théâtre à ciel ouvert où l'on joue surtout des pièces du plus grand dramaturge de tous les temps. Les festivités d'été de Shakespeare ont été organisées au château de Prague pour la première fois en 1994 et depuis ce temps-là, le festival est devenu un rendez-vous incontournable de la vie culturelle de la capitale. Václav Richter.
Avec les années, le festival s'est étendu sur plusieurs autres villes et a revêtu un caractère international. Les spectacles des festivités de Shakespeare sont donnés à Prague, Brno, Ostrava, Olšany, Bratislava, Košice, Zvolen et Trenčín. Le festival est aussi un lieu d'échange entre des théâtres tchèques et slovaques. Certaines pièces sont jouées en deux langues, en tchèque et en slovaque, et on peut dire qu'au moins dans le domaine théâtral, la Tchécoslovaquie n'a pas cessé d'exister. Cette année, il y a au programme plusieurs pièces célèbres, dont Roméo et Juliette, Les Joyeuses Commères de Windsor, Macbeth, Antoine et Cléopâtre, etc. Pour aussi faire découvrir au public des pièces moins connues du grand dramaturge anglais, les organisateurs ont programmé cet été une nouvelle production de la pièce historique Henri IV. La mise en scène a été confiée à Lucie Bielohradská.
Je ne connaissais pas cette pièce de Shakespeare. Je l'ai lue pour la première fois quand ils me l'ont proposée. J'ai énormément aimé ce thème politique qui me paraissait très actuel. Il me semblait que ce thème devrait être présenté sur scène. Pour moi, le personnage principal de la pièce n'est pas Falstaff, mais le prince Henri et sa route vers le pouvoir. Le prince Henri est destiné à devenir roi, mais avant de le devenir, il décide de jouir de la vie parce qu'il sait que dès son entrée dans la grande politique, il sera obligé de renoncer au plaisir de la vie. La question qui se pose donc est donc la suivante, l'ambition ou le plaisir.
Au programme du festival, il y a entre autres deux productions différentes de la comédie Les Joyeuses Commères de Windsor. Une production tchèque dans la mise en scène du réalisateur de cinéma Jiří Menzel et avec l'excellent comédien Bolek Polivka dans le rôle de Falstaff, et aussi une production anglaise qui sera présentée par la troupe britannique JB Theatre Company. La série de représentations de cette troupe permettra au public tchèque d'entendre la langue de Shakespeare et de voir aussi une production classique dans de riches costumes élisabéthains. Parmi les spectacles très attendus du festival, il y a également Roméo et Juliette dans la production de la compagnie Pas de théâtre de la ville d'Ostrava. Les rôles des amants de Vérone sont campés par le jeune comédien Marek Holly et Teresa Dochkalova. Pour cette actrice, Juliette n'est pas une demoiselle romantique, mais une jeune femme d'une grande force intérieure. Elle considère Shakespeare comme un auteur vivant et quasi contemporain, et pour jouer ses personnages, elle évite toute exagération et choisit plutôt une interprétation modérée.
Cela veut dire que vous n'avez pas besoin de vous arracher les cheveux. Tout est contenu dans la parole, et quand vous réussissez à le comprendre et à l'exprimer d'une certaine façon, c'est tout à fait suffisant.
Les festivités d'été de Shakespeare en sont maintenant à leur moitié. Elles se poursuivront jusqu'au 4 septembre prochain.
À partir de ce jeudi et pendant tout le mois d'août et septembre, Prague va résonner au son de l'orgue à l'occasion de la 15e édition du Festival international de musique d'orgue. L'occasion de revenir sur le programme et l'histoire de ce rendez-vous musical avec Anna Kubista.
Et à l'origine de ce festival, c'est l'organiste Irena Chrypkova qui tire les manettes depuis sa création il y a 15 ans. La naissance de ce rendez-vous de la musique d'orgue est d'ailleurs liée au déficit ressenti alors par la directrice du festival.
Le festival est né du fait que la possibilité d'entendre à Prague des organistes étrangers me faisait défaut. Auparavant, sous le communisme, il y avait de très beaux cycles au Rudolfinum. C'est la Philharmonie tchèque qui les organisait, mais tout cela a disparu par la suite. Entre-temps, j'ai commencé à travailler en tant qu'organiste à la basilique Saint-Jacques et j'ai vu qu'il y aurait une possibilité de refaire ces cycles sur notre orgue car c'est le plus grand de Prague. En outre, il offre de grandes possibilités aux interprètes de présenter différents répertoires du baroque à nos jours.
Cette année, parmi les grandes personnalités invitées du festival, les amateurs de musique d'orgue pourront écouter Jiří Ropek, organiste de la basilique Saint-Jacques, présenté en tant qu'interprète et compositeur, mais aussi en tant que pédagogue. Les interprètes de ses travaux, tels que John Scott ou James Kibbe, se présenteront ainsi au public pragois, tout comme son élève Jan Kalfus. Une place importante sera également accordée aux œuvres pour orgue du grand compositeur baroque Johann Sebastian Bach, Alpha et Omega de tout organiste, comme le souligne Irena Chrypkova. Enfin, cette année, nous célébrons le bicentenaire de la naissance du compositeur Robert Schumann. Plus connu pour ses Lieder, son œuvre symphonique et sa musique pour piano, il a néanmoins créé quelques compositions pour orgue. Irena Chrypkova elle-même se produira au cours de ces 2 mois du festival. Sa passion pour l'orgue remonte à l'âge de 10 ans. Elle nous confie ce qui, pour elle, fait la magie de cet instrument d'église.
Vous savez, il n'existe pas deux orgues similaires au monde. Donc un organiste est sans cesse dans un processus de création. Contrairement à d'autres instruments, il doit à chaque fois réinterpréter la composition en fonction de l'orgue. De même, chaque instrument correspond à un répertoire. C'est donc quelque chose de créatif et il y a une part de surprise dans ce qui attend l'interprète dans chaque église. L'instrument est en outre lié au lieu et à son acoustique. Donc avant un concert, je dois bien répéter pour établir un contact entre l'espace et l'instrument.
Justement, l'espace dans lequel se déroule tout le festival est la basilique Saint-Jacques dans la vieille ville de Prague. Irena Chrypkova décrit la spécificité de ce lieu qu'elle connaît bien.
Son acoustique est très spéciale. D'après une récente étude, dans toutes les églises de Prague, la basilique se trouve en deuxième position au niveau de la qualité de l'acoustique. À l'origine, c'était une église gothique dont la voûte a subi un incendie et a été transformée à l'époque baroque. Donc elle a diminué au niveau de la hauteur, mais la longueur est la même, ce qui fait que l'écho est optimal. La pierre permet à la musique de retentir, et puis le cadre est magnifique, donc l'auditeur en ressort apaisé, rempli de spiritualité.
Le Festival international de musique d'orgue se déroule donc jusqu'au 28 septembre. Plus d'informations au www.auditeorganum.cz.
Thank you.
C'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque. Tout de suite, la suite du programme avec un portrait de sainte Ludmila, une des plus importantes saintes de Bohême.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres. Jarka Gregorova.
Cette fois-ci, dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous déplacer bien des siècles en arrière pour faire la connaissance de l'exquise princesse Ludmila, épouse du premier prince de la famille des Przemyslit, Bojevoj Ier de Bohême, et grand-mère du prince Venceslas, patron des Tchèques. Elle est la première femme en Bohême à avoir été canonisée. D'après les anciens écrits, la princesse Ludmila, fille de Slavibor, seigneur des Sorabes de la région de Mielnik, est née aux environs de 1860. Âgée de 15 ans à peine, elle a épousé le prince Bojevoj Ier, issu de la famille des Przemyslid. Élevée dans la religion païenne, slave polythéiste, elle a adopté la foi chrétienne en Bohême peu après son époux Bojevoj. Ce dernier a été baptisé en Moravie par l'archevêque Méthode, apôtre des Slaves, qui a également baptisé la princesse Ludmila. C'était un acte ingénieux, car par cette conversion au christianisme, les Przemyslid se sont forgés une forte position politique et sont devenus la famille noble la plus importante en Bohême. De plus, ils avaient l'avantage de siéger en Bohême centrale, région clé sur le plan stratégique. La force du pouvoir des Przemyslid fut pendant de longs siècles inébranlable. La dynastie s'éteignit en ligne masculine par le meurtre de Venceslas III, le 4 août 1306 à Olomouc. Lorsqu'après 14 ans de vie commune, l'époux de Ludmila mourut, ce fut le fils aîné Spitinev Ier qui accéda au trône de Bohême. Mais la jeune veuve, qui était une femme intelligente et instruite, ne se retira pas du monde, comme il était d'usage à l'époque. Elle resta au château de Prague et participa activement à la vie sociale et publique du royaume de Bohême. Elle a eu incontestablement un grand mérite sur la prise du gouvernement par ses fils Spitinev Ier et Vratislav Ier, qui succéda à ce dernier en 915 et épousa Drahomira de Stolor. La princesse Ludmila aida également sa belle-fille Drahomira à élever et à éduquer ses petits-fils et petites-filles. Les deux princesses ne se sont jamais liées d'amitié, mais lorsque l'époux de Drahomira, le prince Vratislav Ier, décéda en 921, les relations entre les deux femmes empirèrent encore. Le pouvoir fut réparti entre les deux princesses. Drahomira de Stolor est nommée régente et Ludmila est chargée de l'éducation des princes Venceslas et Boleslav. Drahomira supporta très mal cette décision et se sentit offensée tout autant dans son rôle de mère que celui de princesse. Le conflit entre les deux femmes n'était pas seulement personnel, mais également politique. À cette époque, les princes slaves nouaient des alliances fructueuses et stratégiques pour renforcer leur autorité. Drahomira de Stolor voulait plutôt se lier avec la Saxe, alors que la princesse Ludmila penchait incontestablement pour la Bavière, jusqu'alors étroitement liée avec la Bohême. Ludmila était bien consciente que la liaison avec la Saxe limiterait l'indépendance de la Bohême. Le conflit entre Drahomira de Stolor et la princesse Ludmila culmina par un meurtre. Probablement le 15 septembre 921, Drahomira fit assassiner son inconfortable rival au château fort de Tétin, où la princesse Ludmila s'était réfugiée. Cet assassinat fut accompli par les hommes de Drahomira, Tuna et Gomon. Il existe deux versions de la mort de la souveraine douairière. La première dit que les deux malfrats ont défoncé la porte de ses appartements et l'ont étranglée brutalement avec le châle qu'elle portait alors qu'elle s'agenouillait pour prier. La seconde variante est beaucoup plus poétique. Tuna et Gomon seraient silencieusement entrés dans les appartements de la princesse Ludmila alors qu'elle se préparait pour la prière du soir. Ayant entendu un bruit étrange, elle se retourna et aperçut les deux hommes qui s'approchaient. Ludmila comprit vite quelle était la raison de leur venue et que son sort était décidé. Elle les pria d'attendre qu'elle ait terminé sa prière. Tuna et Gomon attendirent derrière la souveraine douairière, et lorsqu'elle prononça les dernières paroles de sa prière, chacun d'eux attrapa le châle par une extrémité et tira avec force. Lors de l'assassinat de la princesse Ludmila, Venceslas était âgé de 14 ans. 4 ans plus tard, il fit transporter la dépouille mortelle de sa grand-mère du château fort de Tétin à Prague, au sein de la basilique Saint-Georges qui abrite le tombeau de la souveraine douairière jusqu'à nos jours. La princesse Ludmila a été canonisée au XIe siècle et le châle avec lequel elle a été étranglée est devenu le symbole de son martyre. Drahomira de Stodor est finalement entrée en conflit également avec Tuna et Gomon, qui sont devenus ses pires ennemis. Elle a chassé les membres de leur famille du pays, et ceux qui n'ont pas réussi à s'enfuir ont été assassinés par la cruelle princesse, avide de pouvoir. Il existe à Prague beaucoup de monuments consacrés à Sainte Ludmila, comme par exemple la statue de Sainte Ludmila avec Saint Venceslas enfant qui se trouve sur le pont Charles, l'église de Sainte Ludmila sur la place de la Paix, construite dans un style néo-gothique, ou l'église de Sainte Ludmila au château fort de Tétin.
Voilà, c'est la fin de ce programme quotidien d'actualité tchèque en français. Retrouvez toutes nos émissions sur le www.radio.cz ou demain, même heure, même fréquence, Zatim Ahoy.
en su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20.30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0.30 horas UTC, los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.